Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Tenida, page 35 d'Af Lamed He. Bonne écoute et bon limoud.
Mais pourquoi est-ce que la Gemara considère que c'est évident? D'après le raisonnement a fortiori suivant. Là, Herim Gorem Touma, étant donné que cet écoulement, il rend d'autres impurs. C'est-à-dire qu'il rend le Zav lui-même, qui en est atteint, impur. Le Hatzmo Lokol Sheken, il est bien évident que la substance elle-même est impure. Et la Pshita, donc, bien sûr, le Zav Metzora, le problème qui se pose est celui d'un Zav qui est atteint par ailleurs de l'impureté de Tzara'at. Et ce verset vient nous apprendre, donc, qu'il est impur, que le liquide en question est impur, qu'il est impur non seulement par le contact, mais qu'il est impur même par Tum'at Massa lorsqu'on le porte. Et puisque on a eu un verset qui était nécessaire pour nous dire que lorsque un Metzora a une deuxième vision, donc un deuxième écoulement de Zov, que ceci le rend impur, Shmaminam Kom Zivala Mayanu, déduisant qu'on n'aurait pas pu l'apprendre par le simple fait du type d'écoulement. Autrement dit que l'écoulement de Zov n'est pas considéré comme un Mahayan. Sinon, on n'aurait pas besoin d'un verset pour nous l'apprendre. La Gemara n'est pas d'accord avec la preuve de Rava. Amar le Rav Yehuda mi Discarta le Rava. Rav Yehuda, de la localité de Discarta, a rétorqué à Rava. Mimai, qui te dit que notre Braïta parle du cas d'un Zav qui est également atteint de la Touma de Tzara'at. Dilma le Olam et Malach Zav Greda. Je peux toujours penser que Nabraïta ne parle que de celui qui n'a que le problème de Zov. Ou de Kahamart, quant à l'argument que tu as dit, c'est-à-dire le Kalva Homer, le raisonnement forcerie, en disant, là, si déjà il est capable de, cet écoulement est capable de rendre d'autres impurs, lui-même il est certainement impur, je peux te donner une contre-preuve. Saïr Amishtale Achyochiach. La contre-preuve vient du bouc que l'on envoie au Azazel, lors de Yom Kippour, te montrer qu'il n'en est rien. En effet, il rend d'autres impurs alors que lui-même est pur. En effet, il est marqué dans le 16e chapitre de Vayikra, dans le Passouk 26, c'est-à-dire, l'homme qui envoie ce saïr en direction de l'Azazel devra laver ses vêtements et aller au mikvé. Et ensuite, il pourra revenir au Mahané, donc lui-même est impur. Tandis que le bouc ne peut pas être impur parce qu'un animal n'est jamais impur tant qu'il est vivant. Et donc, on a une preuve que le fait de rendre impur n'implique pas obligatoirement que soi-même on soit pur. Autrement dit, le fait que l'écoulement de Zav rend l'homme qui en est l'objet impur ne prouve pas que l'écoulement lui-même soit impur. Amar Abaye. Et Abaye, il vient, il dit, Maïti Bayele. Quelle est la question qui se pose à Rabbi Yosef? C'est Rav Yosef lui-même qui a dit, en citant le pasouk déjà cité, Zot Torah Tazav, voici la loi concernant celui qui a un écoulement. Ben Gadol, Ben Katan, on a dit que ceci est valable aussi bien qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur. Et Kevan de Nafkalemeatam, étant donné que Rav Yosef apprend que le nom Bar Mitzvah est également atteint de la Tum Adziva de ce verset, Itar le Lazachar. Il a en plus le mot Lazachar, qu'on a déjà cité également, qui est dans le dernier verset du chapitre 15 de Vayikra, le Rabot Metzora, le Maïnotav, pour venir inclure qu'un Metzora a également une Touma qui vient de ses sécrétions. Ve l'Anekeva, le Rabot Metzora, le Maïnotéa, il a le mot l'Anekeva qui est superflu et qui vient inclure qu'une femme qui est atteinte de la Touma de Tzara'at a également une Touma en ce qui concerne ses sécrétions, Maïanot. La Torah a donc mis sur un pied d'égalité un Metzora et un Zav qui a été totalement atteint de Ziva, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu deux pertes de substance de Zov. Mazav Gamour Metame Bemassa, de même que la substance qui s'écoule d'un Zav, qui est Zav au plein sens du terme, elle rend impure lorsqu'on la porte, Tumat Massa, même si on ne la touche pas. Af, de même, Re'iya Rishona Shel Metzora, Metame Bemassa. Le premier écoulement d'un Metzora doit également être capable de rendre impur Bemassa lorsque on le porte, même si on ne le touche pas. Amar Ravuna. Ravuna vient, il nous dit Réya Rishana Setzav Metamea Veones. Le premier écoulement qu'a un Zav rend impur, même si c'est une cause extérieure, un cas de force majeure littéralement, qui a provoqué cet écoulement, contrairement au deuxième ou au troisième pour lequel on exclut le cas de Onès. D'où le sait-il, chez Nehemar, parce qu'il est marqué, toujours le même dernier verset du chapitre 15 de Vayikra, Zot Torah Tazav, va asher tetsen menu shikhvadera. Voici la loi du Zav et de celui dont s'écoule du shikhvadera, de la matière séminale. Ma shikhvadera metame veones. De même que la matière séminale, on sait qu'elle rend impur celui qui l'émet, même si ceci est arrivé par une cause de force majeure. Af rei arisona shelzav metame veones. De même, le premier écoulement du Zav le rend impur, même si ceci est arrivé à cause d'une force extérieure. La Gemara n'est pas convaincue de ce que dit Ravuna et elle apporte une Mishnah. Tashma, viens et apprends ce qui est enseigné dans une Mishnah, qui est la deuxième Mishnah du deuxième chapitre de Zabim que nous avons déjà cité. Voilà ce que dit cette Mishnah. Ra'a rei arisona botkin oto. Lorsque un homme a une première vision, c'est-à-dire un premier écoulement de type Zov, on doit faire l'examen, c'est-à-dire on doit vérifier si ceci est venu naturellement ou s'il y a eu un honnête, s'il y a eu un cas de force majeure, trop manger, trop boire, etc., etc., voir la Mishnah. Et demande la Gemara, Maï lav le Touma, est-ce que le but de cette vérification n'est pas de savoir si ça a été naturel et dans ce cas-là il y a l'impureté, ou si ça a été par un honnête, par une force majeure, et dans ce cas-là il n'y a pas de Touma. La Gemara dit ceci n'est pas là pour cela, le Korban. Ceci est pour savoir si, lorsqu'il y aura encore deux autres écoulements, s'il sera tenu d'apporter un Korban. Autrement dit, si le premier écoulement également est venu de manière naturelle, lors de du troisième écoulement, il devra apporter un Korban, et sinon il ne devra pas apporter de Korban. Autrement dit, la Gemara a repoussé l'objection qu'on voulait faire à la règle que Ravuna proposait. Tashma, la Gemara va encore mettre en cause l'enseignement de Ravuna d'un autre texte, qui est toujours de la même Mishnah. Bashnia Botkinoto. Lorsqu'il y a un deuxième écoulement, on fait également l'examen, c'est-à-dire on vérifie si cet écoulement est dû à une cause externe ou s'il est naturel. L'émail. Pourquoi fait-on cet examen? Il est mal au Corban, si tu veux me dire qu'il s'agit de savoir si c'est pour apporter un Corban aval letum à l'homme et pas par rapport au fait de savoir si cela provoque une impureté, c'est-à-dire si à partir de ce deuxième écoulement il va devoir attendre 7 jours, ce qui est le cas d'un Zov qui a eu deux visions. Ikre Kan, de toute façon tu peux appliquer ici ce qui est marqué dans le verset, Mibesaro, cet écoulement doit venir de sa chair, Velo Mahamat. En effet, comme l'explique Rashi, ce terme Mibesaro apparaît dans le verset qui parle de la deuxième vision. Deuxième vision, donc deuxième écoulement de Zov. Et la lave, le Touma. Donc, n'est-ce pas, cet examen est destiné à savoir s'il y aura ou non une impureté. Ou mille sefa le Touma, rechanami le Touma. Et puisque dans la fin, la Mishnah propose un examen qui ne peut être compris que pour déterminer s'il y a impureté ou non, recha, dans la première halakha de la Mishnah également, le Touma, c'est pour savoir s'il va y avoir ou non une Touma. Autrement dit, nous voyons de la Mishnah, dès le début, que dès le premier écoulement de Ziva, s'il y a une cause externe, ce qu'on appelle Ones, il n'y aura pas de Touma. La Gemara n'est pas d'accord avec cette proposition. Midi, Iria, est-ce que c'est quelque chose de logique? Ha, Kedeita, Ha, Kedeita. Une partie de la Mishnah s'applique à ce qui la concerne, et l'autre à ce qui la concerne. Autrement dit, on n'est pas certain que parce qu'à la fin, on ne peut parler d'examen de Ones, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une cause externe uniquement pour la Touma, que cela implique obligatoirement que dans la Recha, au début de la Mishnah, cet examen se fasse obligatoirement pour la Touma, il n'y a donc pas de preuve. Tashma, on va encore chercher une autre preuve pour mettre en cause la proposition de Ravuna. Toujours dans la Mishnah, il y a une machloket. Rabbi Eliezer dit, Af, Bashelishi, Botkinoto, Mipnei, Korban. Même lors du troisième écoulement, On doit examiner les conditions dans lesquelles cet écoulement a eu lieu, de savoir s'il s'est fait naturellement à cause d'un honnès, mais peut-être un corban, pour savoir s'il va devoir ou non apporter un sacrifice. Michlal est un kama, mais peut-être un touma kama. Si Rabbi Eliezer dit cet examen se fait pour le corban, c'est donc que le tanakama, c'est-à-dire la Mishnah précédente, pensait que l'examen est fait à cause de la touma. Autrement dit, puisque le tanakama demande un examen dès le premier écoulement, nous voyons que le premier écoulement, s'il a été causé par un honnès, il n'y aura pas de touma, ce qui est contraire à ce qu'a dit Ravuna. La Gemara dit non. Là, ce n'est pas le cas. Déroulez Alma le Corban. Tout le monde est d'accord, aussi bien le Tanakama que Rabbi Eliezer, que lors du troisième écoulement, c'est vis-à-vis du problème du Corban que l'on doit faire un examen des conditions et des circonstances dans lesquelles l'écoulement a eu lieu. Ve'acha. Et ici, lorsqu'on parle donc de ce troisième écoulement, Ve'etim ka mi palgé. C'est une discussion sur le fait de savoir comment on interprète le mot et qui est écrit dans le verset. Précisément, il est marqué « Ve'azav et zovo la zachav lankeva ». Voilà ce qui est marqué dans le 33e passouk du chapitre 15 de Vaïkra. « Ve'azav et zovo », l'homme qui est atteint d'un écoulement, il y a le mot « et ». Et alors, il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, que l'Agmara exprime ainsi, « Rabbanan la darche etim ». Les Chachamim, c'est-à-dire Tanakama, ne tiennent pas compte du mot « et ». Rabbi Eliezer d'Oresh etim, Rabbi Eliezer il interprète le mot et, et à cause du mot et, il apprend qu'il faut également un examen pour le troisième écoulement. En effet, l'Agmara dit Rabbanan Odarche etim, étant donné que les Chachamim n'interprètent pas le mot et, Hazav, Chada, lorsque le mot Hazav vient, ça fait un écoulement, puisque le mot Hazav veut dire celui qui a un écoulement. Zovo, son écoulement, le liquide, Tarté, ça fait une allusion à un deuxième écoulement. La Zahar, concernant un homme, ceci nous apprend donc que ce ne sont que ces deux premiers écoulements qui sont soumis à la règle que s'ils sont naturels, ils rendent impurs, et s'ils sont venus avec un honnête, avec une cause extérieure, il n'y a pas de Tum'a. Bachelichi, mais en ce qui concerne le troisième écoulement, toujours d'après les Rabbanan, Tanakama, Akshe, Rahmanan Inkeva, Kadosh Baruch Hu le met sur la pied d'égalité avec ce qui se passe pour une femme qui a un écoulement. Sous-entendu, de même que lorsqu'une femme a un écoulement, ceci la rend Zava, même s'il y a eu un honnête, par exemple qu'elle a sauté et que ceci a causé l'écoulement. De même pour l'homme lorsqu'il s'agit du troisième écoulement. Rabbi Eliezer d'Arish Yetim, tandis que Rabbi Eliezer, il interprète la présence du mot Et, Hazav Chada, donc il dira Hazav c'est un premier écoulement, Et. Le mot et qui vient ensuite parle du deuxième écoulement, tarté, zovo, son écoulement, telat, c'est le troisième écoulement. Autrement dit, pour les trois écoulements concernant un homme, Rabbi Eliezer pense qu'il y a nécessité de vérifier si cet écoulement s'est fait naturellement et s'il a été causé par une cause extérieure de honnête, ceci ne le rend pas impur. Ce n'est qu'en cas d'un quatrième écoulement que la Torah lui donne le même statut qu'une femme, c'est-à-dire qu'il le rendra impur, même dans le cas où ceci est dû à un honnête. Rachid nous explique ce quatrième écoulement signifie. On sait qu'après avoir eu trois écoulements, le Zav doit attendre 7 jours purs avant de pouvoir aller au Mikvé. Et bien entendu, s'il a un écoulement de Zav pendant cette période, il devra annuler et recommencer. D'après le Tanakama, il ne parle pas du quatrième écoulement. D'après Eliezer, il apprend de ce verset que le quatrième écoulement, s'il a lieu même Béonès, même avec une cause extérieure, ceci annule le compte des 7 jours purs et il devra le recommencer. C'est comme ça que Rashi l'explique. La Gemara demande encore une question contre Ravuna à partir d'une Braïta. Tashma, viens y apprends. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dit Zav Bichlal Balkeriaya. Pourtant, le Zav était déjà inclus dans le simple fait d'émettre du liquide séminal. Ceci veut dire que dans le verset 32 qui termine le chapitre 15, c'est marqué Zot Torat Azav Asher Tetsemenu Shichvatzera. Autrement dit, il y a un rapport de comparaison entre les deux, comme on va nous le dire incessamment. L'amayatsa, et pourquoi a-t-on explicité le cas du Zav, laquelle alav, ou l'achmir alav, à la fois pour lui donner des règles plus légères, laquelle, et des règles plus strictes, l'achmir. Et la Braïta explique, laquelle alav, dans quel cas est-ce qu'on va être plus coulant vis-à-vis du Zav que vis-à-vis du Baal Keri, chez Mittame Veones. En effet, le Zav ne devient pas impur lorsque ce liquide s'est écoulé par une cause extérieure. Ou la Hmir Lav, et quel est le cas où on va être plus sévère vis-à-vis du Zav que vis-à-vis de celui qui est Baal Keri? Nous avons ainsi terminé le Hamoud Alev de ce Daf 35. Nous tournons la page.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daf Lamed He Amud Bet.
La Gemara dit, Shehu Ose Mishkav ou Moshav, c'est qu'il rendra également impur les objets ou les éléments de literie sur lesquels il est assis ou sur lesquels il est allongé. Emma. Dans quel cas parlons-nous dans la Braïta? Il est ma birei Hachénia, si tu peux me dire qu'il s'agit de du second écoulement de ce Zav, eh bien nous ne pouvons pas l'accepter. Echa, hava bichlal balkeri. D'où est-ce que nous pouvons penser qu'un second écoulement d'un Zav soit impliqué au même titre qu'un balkeri, puisque le balkeri le devient dès la première fois. Et là, pshita, birei Hachénia. Il s'agit donc bien évidemment du premier écoulement de type Zav, dont cette personne est atteinte. Vekatanela, qu'elle lave. Et la Braïta nous dit qu'on n'est plus coulant à son égard, chez nos mitame veones, qu'il ne devient pas impur si la cause est extérieure, d'avoir trop mangé, trop bu, etc. Comme le dit la deuxième Mishnah du deuxième chapitre de Zavim. Donc, on voit de là que le premier écoulement, lorsqu'il est causé par un ones, ne rend pas tamé. Ceci va contre ce que Ravuna a voulu déduire. La Gemara dit, Vetis Mera, est-ce que tu crois que c'est vraiment le cas du premier écoulement d'un Zov? L'Achmir Alav, c'est où c'est Miskamou Ishav? Puisque la Braïta dit que concernant ce Zav, on va être plus strict à son égard en lui donnant la loi de Mishkav et de Moshav, c'est-à-dire qu'il va rendre impur ce sur quoi il est assis ou ce sur quoi il est allongé. Birehia Rishona Bar Mishkav Moshav. Lorsqu'il n'a eu qu'une première vision, c'est-à-dire qu'il n'a eu qu'un premier écoulement, il peut déjà avoir la loi de Mishkav et de Moshav concernant ce sur quoi il est assis ou ce sur quoi il est allongé. Et sous-entendu, bien sûr que non. Et là, Rikama, voici ce que la Braïta voulait dire. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dit, Ralo Zav Bichlal Baal Keri Ayabirei Arshona. N'est-il pas vrai que le Zav, il fait partie en quelque sorte de la loi générale de Baal Keri lors de son premier écoulement? Mais la Mayatsa, sous-entendu Birei Arshenia, pourquoi est-ce qu'on l'a mis à part lors du deuxième écoulement? Lors du deuxième écoulement, la Akel Alav ou la Achmir Alav. Il y a lors du deuxième écoulement des règles d'allègement et des règles de sévérité. La Akel Alav, Shenom, Mitame, Veones. On allège dans la mesure où lui ne deviendra tamé lors de ce second écoulement que si ça s'est fait d'une manière naturelle, mais pas si c'est venu par une force majeure. Ou la Achmir Alav, Shehose, Mishkav ou Moshav. Et on va être plus strict à son égard dans la mesure où les literies sur lesquelles il est allongé ou les sièges sur lesquels il est assis deviendront impurs. Amar Ravuna. Ravuna a encore dit. Zov, il s'agit ici de comprendre la différence physique entre la nature de l'écoulement qu'on appelle Zov ou Ziva et l'écoulement de sperme qu'on appelle Shichvadzera. Zov domé le mevatsek shel seorim. Le Zov ressemble à l'eau qui s'écoule d'une pâte qui a été faite avec de la farine d'orge. Première différence. Zov bami basaramet. Deuxième différence, le Zov vient d'un organe qui est mort, c'est-à-dire il n'y a pas d'érection. Shikhvadzera, tandis que le sperme, bami basarachai, il vient d'un organe qui est d'une chair qui est vivante, c'est-à-dire d'un organe en érection. Et puis, autre différence, Zov de. Le Zov est quelque chose qui est clair et qui est liquide, qui s'écoule facilement. Le domaine de l'Oven Betsa Mouzeret, ça ressemble au blanc d'un œuf qui a pourri, qui s'est un peu décomposé. Shirvat zera keshura. Tandis que le shirvat zera, le liquide séminal keshura, il est beaucoup plus compact, il est moins liquide, plus visqueux. Le domaine loven betsa shena muzeret. Et il ressemble au blanc d'un œuf qui n'a pas, qui s'est pas décomposé, qui est encore capable de donner naissance à un, donc qui est visqueux, qui peut donner encore naissance à un poussin, comme l'explique Rashi. La Mishnah disait, nous revenons donc à un texte de la Mishnah, Dam ayoledet shelo tavla. Une discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel concernant le statut du sang d'une femme qui a accouché et qui ensuite dans les Yemei Tohar, les jours de pureté où ses écoulements sanguins sont qualifiés de purs par la Torah. Rappelons qu'il s'agit de la période qui va entre le 8e et le 40e jour après la naissance d'un garçon, ou entre le 15e et le 80e jour après la naissance d'une fille. Tania, une braïta enseigne. Amrou laem Beit Hillel le Beit Shammai. Beit Hillel qui sont plus stricts et qui exigent la tevila pour que ce sang soit pur, ont rétorqué à Beit Shammai. Iatem modim benida shelo tavla vera atadam. Est-ce que vous ne reconnaissez pas dans le cas d'une femme qui a eu un écoulement qui la rend nida et qui n'est pas allée au mikvé et qui ensuite elle a saigné chez Itmea qu'elle est impure, c'est-à-dire que ce sang également il est impur d'après la Torah. Et donc pourquoi ne dirait-on pas la même chose ici, que tant que cette femme n'est pas allée au mikvé, cette accouchée, le sang qu'elle boit même pendant les jours de Torah doit être impur. Amroula et Beit Shammai et Beit Shammai leur ont répondu, là, nous ne sommes pas d'accord à la comparaison. Im amartem benida. Si vous dites une telle chose concernant une nida et nous reconnaissons que c'est vrai, si afilu tavla vera tatmea, que quand bien même elle serait allée au, c'est vrai parce que quand bien même elle serait allée au mikvé et qu'ensuite elle a un écoulement tamea, cet écoulement est à nouveau impur. Tomru veyoledet. Pouvez-vous tenir le même raisonnement pour une accouchée? C'est im tavla vera ata. Car si elle est allée au mikvé et qu'ensuite elle a un saignement pendant ses yemetoah, tout le monde est d'accord qu'elle-même, elle est pure. Ce saignement n'a aucune conséquence sur elle. Amoulaim, Beit Hillel leur a rétorqué. Yoledet bezov tochiar. Nous pouvons vous amener une contre-preuve du cas d'une femme qui accouche alors qu'elle est dans la situation de Zov, c'est-à-dire qu'elle a eu 3 jours au moins de saignement en dehors de sa période de Nida qui la rend Zava. Et dans ce cas-là, on sait que Sheim tavla vera talacharibesira. Torah. Si elle est allée au mikvé après avoir compté les 7 jours et qu'elle ait eu ensuite un saignement, elle est pure. Et son sang également est pur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, comme le dit Rashi, que la période de Dam Tohar a déjà commencé après donc qu'elle ait compté ses 7 jours de pureté. Lotav laverata. Et si cette Yoledet Bezov n'est pas allée au mikvé et qu'elle a eu un écoulement, Temea, elle est impure. Sous-entendu, le sang également est impur. Bien que nous soyons dans la période de Dam Tohar, étant donné qu'elle était Yoledet Bezov, ce sang est impur. Amroula et Beit Shammai a répliqué, Hu Hadin, la même loi s'applique effectivement pour une femme après la naissance, Vehi Atsuva. Et c'est la même réponse que l'on peut faire. Autrement dit, nous, Beit Shammai, nous pensons qu'à partir du moment où la Zava a terminé la Touma consécutive à la naissance et qu'elle a compté 7 jours purs, la période de Dam Tohar va commencer même si elle n'est pas allée au mikvé. Et donc, cette réponse de Beit Shammai étonne la Gemara. La Gemara dit le même rad est pligué. Est-ce que ceci veut dire que Beit Shammai est en désaccord avec Beit Hillel pour Yoledet Bezov, Ve'atnan, pourtant notre Mishnah nous dit, ou Modim, Beit Shammai reconnaissent à Beit Hillel la Chumra, Be Yoledet Bezov, dans le cas d'une femme qui a accouché au moment où elle était Zava, Shehi, Mitamea, Lach, Ve'yavesh, que le sang qui s'écoule d'elle rend impur aussi bien lorsqu'il est sec que lorsqu'il est encore humide. La Gemara répond, Lakashia, ceci n'est pas contradictoire. Kan, chez Safra. Dans le cas de la Braïta, nous parlons d'une cas d'une femme qui a été effectivement Yoledet Bezov et qui n'est pas allée au mikvé, mais qui a fait le compte des 7 jours. Kan, tandis que dans la Mishnah, chez Lo Safra, il s'agit d'une femme qui n'a pas encore eu les 7 jours nets de tout saignement depuis cet accouchement Bezov. Vehatania, et d'ailleurs c'est ce qui est enseigné dans une Braïta, Yoledet Bezov, une femme qui accouche et qui était Zava à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait eu 3 jours d'écoulement sanguin consécutif après la période de 7 jours de Nida, au moment donc de son accouchement, chez Safra ve la Tavla, si elle a compté les 7 jours de pureté mais qu'elle n'est pas allée au mikvé, verra Ata, et qu'ensuite elle a un saignement. Alchou ve Tchamay le Shitatan ou ve Tile le Shitatan. Bet Shamay suit son avis et Bet Hillel suit leur avis, c'est-à-dire que d'après Bet Shamay, ils considèrent que ce sang est tout à fait pur Minatora, tandis que Bet Hillel considère que le sang qui s'écoule est impur Minatora. Itmar, il a également été enseigné. Rav Amar, Rav dit, alors il s'agit ici de comprendre comment est-ce que la femme passe du 7e au 8e jour après la naissance d'un garçon ou du 14e au 15e jour après la naissance d'une fille, de saignements qui sont des saignements impurs, à au saignement de dame Torah de sang pur. Alors nous avons deux avis, celui de Rav et celui de Lévi. Rav il dit, Maya Nechadou, il y a une seule source sanguine, la Torah Timahatou, la Torah Tiharatou. C'est la Torah qui le rend impur, sous-entendu en règle générale, et ici la Torah le rend pur pendant cette période particulière suivant l'accouchement. Lévi Amar, Shne Marianotem. Tandis que Lévi pense qu'il y a deux sources distinctes de sang. Nistamatame, une fois que la source de sang tamé s'est arrêtée, littéralement a été bouchée. Nistachataor, c'est une source de sang pur qui s'ouvre, qui vient d'une autre provenance. Nistamataor, ou bien à la fin de la période de 40 jours après la naissance d'un garçon ou de 80 jours après la naissance d'une fille, le saignement pur s'étant arrêté. C'est en Tari, Niftar Hatame, c'est le saignement impur qui reprend. La Gemara demande Maï Benayou, quelle différence cela fait-il? Peu nous importe la théorie de savoir s'il y a une seule source ou deux sources, qu'est-ce que cela change par rapport au dinim ou à la chot qui concerne cette femme? La Gemara répond Ika Benayou, il y a une différence entre eux. Sofa'at mitor Shiva le Achar Shiva, ou mitor Arba'a Asar le Achar Arba'a Asar. Une femme qui continuerait à saigner sans discontinuer lors du passage du 7e jour au poste 7 jours pour un garçon, ou bien de 14 jours à après 14 jours pour une fille, ou mitoch arbaim lachar arbaim, ou mitoch shmonim lachar shmonim, ou inversement, si une femme avait du sang pur et qu'elle continue à saigner sans arrêt du 40e jour à la période qui suit les 40e jours après la naissance d'un garçon, ou bien de 80 jours après 80 jours après la naissance d'une fille. Le Rav, d'après Rav, Recha Lekulav, c'est Fale Khumra. Le premier cas, nous serons amenés à rendre ce sang pur, à être allégé le digne de cette femme, parce que nous ne sommes pas sensibles au fait que l'écoulement est ininterrompu. C'est Fale Khumra. Par contre, dans le dernier cas, nous serons Mahmir, malgré le fait que le sang a continué à saigner, après les 40 jours ou après les 80 jours, nous dirons que ce sang est impur, parce que la date a changé. Et ils n'ont pas besoin d'avoir une autre source de sang. Le Lévi, tandis que d'après Lévi qui dit qu'il y a deux sources distinctes, Recha la Khumra, dans le premier cas il sera Mahmir, que puisque le saignement continue après le 7e jour ou après le 14e jour, nous sommes obligés de constater que ce sang est encore impur. Le Sefa la Kula. Par contre, dans la fin de cette Braïta, c'est-à-dire lorsque le saignement est ininterrompu à la fin des 40 jours pour un garçon ou à la fin des 80 jours pour une fille, nous dirons que puisque le sang pur continue à s'écouler, il est encore pur. C'est pas la couleur. Métivé, on va objecter à la position de Lévi qui dit qu'il y a deux sources de sang d'après notre Mishnah. Notre Mishnah dit d'amayoledet chez l'otavla. Lorsque nous avons un saignement chez une femme accouchée qui n'est pas allée au mikvé, Bet Shamay Omrim, Bet Shamay dit que ce sang il est traité que roka ou chenemeraglea, comme sa salive et comme son urine. Autrement dit que tant qu'il est encore humide, il est tamé. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Amelach Veyavesh, Bet Hillel est plus strict et considère que ce sang rend impur non seulement quand il est liquide, mais même lorsqu'il est sec. Ka Salka Datin de Pascha. Nous pensons dans un premier temps que la Mishnah parle d'un cas où il y a eu une interruption du saignement après les jours où elle est tamée, et qu'ensuite il y a eu un nouvel écoulement. Bish la malheurade à Marmayan et Khadou. Ceci correspond bien à la Chita, à la manière de penser de Rav qui a dit qu'il n'y a une seule source. Bishumachi, metame lach viavesh. C'est pourquoi nous comprenons pourquoi Bet Hillel considère que ce sang, qui s'écoule, il est impur, que ce soit du sang humide ou que ce soit du sang sec. sous-entendu tant que la femme n'est pas allée au mikvé. Et là, bien évidemment, c'est Marianotren, mais d'après Lévi qui dit qu'il y a deux sources distinctes pour le sang impur et pour le dam tohar, le sang pur, Amay metamela riavesh. Pourquoi est-ce que ce sang qui vient après les jours de pureté serait impur lorsqu'il est humide ou sec? Il est supposé être du sang venant de la source pure, puisque on considère que dans la Mishnah, il y a dû y avoir une interruption des saignements. Amar le Khalil, Lévi pourra te répondre, Rabema Askinan, de quoi notre Mishnah nous parle-t-elle? Beshofar, d'une femme qui a saigné sans interruption depuis avant les jours de Tohar jusqu'après les jours de Tohar. Autrement dit, le sang en question vient encore de la source impure et c'est ce qui justifie la position de Beth Hillel dans la Mishnah. Agmara s'étonne, ni Beshofar. Si tu me dis qu'il s'agit d'une femme qui saigne sans discontinuer, pourquoi est-ce que Beth Shammai considère que ce sang n'est impur que lorsqu'il est humide? Il devrait être impur même lorsqu'il est sec, d'après Lévi. L'Agma répond que Savre Beth Shammai Mayan Echadou. Effectivement, il faut concéder à Lévi que Beth Shammai ne pense pas comme lui et qu'il pense qu'il y a une seule origine, une seule provenance des sangs aussi bien tamés que Tahor, aussi bien impur que pur. Maintenant, la Gemara va mettre en cause l'opinion de Rav, Bishtama le Lévi. On comprend bien notre Mishnah d'après Lévi, qui dit que Beth Hillel pense qu'il y a deux Mayanot, et que Beth Shammai pense qu'il y a un seul Mayanot. Haynu Deika ben Beth Shammai ou Beth Hillel. C'est ce qui justifie logiquement la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et là, le Rav, mais d'après Rav, qui pense que même Beth Hillel suppose qu'il y a une seule origine à tous les sangs, Mai Benayou. Quelle va en fait la raison d'être des différences entre Beth Shammai et Beth Hillel? Qu'est-ce qui le justifie? Autrement dit, pourquoi est-ce que Beth Hillel considère le sang tamé s'il n'est apparu que pendant les jours de Tohar, avant même que la femme soit allée à la Tevila? C'est ainsi que Rashi explique la question. Et la Gemara répond, Ikabenayu Yome Utvila. La différence entre eux, c'est de savoir si on passe du sang impur au sang pur uniquement par les jours, Yomé, ou bien s'il faut également la Tevila. Le Beth Shammai savrebi Yomé Talarachamana. Beth Shammai pense que Akadosh Baruch Hu n'a décidé que le sang d'une telle femme serait pur que en fonction des jours, sans qu'on ait besoin de passer au mikvé. Ou Beth Hillel savrait, tandis que Beth Hillel, eux, ils pensent Beyomé ou Tevila, qu'il faut non seulement que la période soit arrivée, mais également impérativement aller au mikvé, comme l'explique Rashi. Peu importe si elle a eu un écoulement continu ou si elle a eu une interruption, tant qu'elle n'est pas allée au mikvé, son sang est tamé, même pendant... Tandis que Beth Hillel pense qu'on ne peut obtenir du dam Torah qui soit réellement pur que si les jours sont arrivés, donc le 8e jour après la naissance d'un garçon ou le 15e après la naissance d'une fille, mais également Tevila que la couchée soit allée au mikvé. La Gemara poursuit en disant Tashma, c'est-à-dire pour mettre en cause l'avis de Lévi. Dvotah Titma, le pasouk du 12e chapitre de Vayikra, le deuxième pasouk dit Shakitazria, Yalzazachar et Tamashivatiamim, qui met Nidat Dvotah Titma, une femme qui aura été fécondée, qui met au monde un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Et on précise qu'il met Nida Devota, conformément à l'impureté de son écoulement. Elle sera impure. Et alors, l'Agmara dit Devota Titma, le Rabot et Boala. Cette manière de s'exprimer vient pour inclure celui qui a eu une relation maritale avec elle. Devota Titma, le Rabot et l'Elot. Et ceci vient également pour inclure, à cause de Devota, le hé en plus, on aurait pu dire Dava Titma, le Rabot Alelot, ça inclut également les nuits des 7 jours en question suivant la naissance, que les écoulements de la nuit sont également impurs, de même qu'elle est impure pendant les nuits des 7 jours de Nida. Dvota Titma, encore une fois, toujours ces deux termes, le Rabot Ayurede Bezov, voilà ce que dit cette Braïta. Ceci vient également inclure le fait qu'une femme qui a accouché alors qu'elle était Zava, chez Tzricha, chez Teshev, chez Ayamim Nakim, elle est soumise impérativement à l'attente des sept jours purs. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que l'interruption du statut de Zava dû à la naissance supprime ce qui précède et la met en situation de sept jours d'impureté à la fin desquels elle pourra aller directement au mikvé. Tel n'est pas le cas de Vota Titma. Ceci inclut le cas donc où elle aurait été Zava au moment de la naissance, Yolet Bezov. Il lui faut impérativement après ces sept jours encore le Shiva Nekim. Et Nagmara résonne ainsi à partir du dernier paragraphe de la Braïta. Bishlama le Rav de Amar Maya Nechadu. Ceci est conforme d'après Rav qui dit qu'il n'y a une seule source de sang. Bishumachi Maya Shiva Tiamim Nekim. Il est donc logique que, malgré l'arrivée des jours de Tohar, on demande quels sont sept jours d'interruption, sous-entendu pour constater en quelque sorte la fermeture de la source des sangs impurs.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.